française, mais ils sont pour nous de savoir dans quel type d'État et sous quel régime nous vivons. Ce qui revient à interroger les évidences et les pré-réflexions, les pré-notions qui diraient que nous vivons dans une république et dans une république démocratique. Alors c'est ce que j'interrogeais pour l'interroger pour une idée de la typologie des régimes politiques. Il faut faire aussi peut-être la différence entre État et gouvernement, si vous voulez vous avancer et rencontrer quelques préparations de cette séance, vous pouvez le faire. Alors, par ailleurs, la dernière fois, je vous avais suggéré d'écouter sur YouTube une conférence de Madame Dastur par curiosité ce que certains d'entre vous ont fait.
Une dame, deux, trois, un monsieur.
Bon, c'est un sens qui est évidemment pas un thérapie. C'était simplement pour que vous puissiez comparer des styles, des types d'intervention. Voilà. Et vous pourrez faire aussi bien faire ce que vous voulez. Oui, madame. Ah oui, bien sûr. Elle s'appelle Françoise Dastur, D-A-S-T-U-R, et elle fait sur YouTube une conférence dans une université catholique, je ne sais pas où, à Lyon peut-être, sur le sujet dont j'ai repris le titre, c'est-à-dire l'autre, l'étranger, l'ennemi. Un enseignement à la retraite alors que rien ne les y oblige. Bah, en quelque sorte, oui, mais c'est pas ce que je vous l'ai dit. L'autre, l'étranger, l'ennemi. Quel est leur ordre? Comment bascule-t-on de l'un à l'autre? Comment l'autre devient-il étranger? Comment l'étranger devient-il ennemi? Est-ce que la vérité de l'autre, c'est d'être étranger? Est-ce que la vérité de l'autre, c'est d'être ennemi? Est-ce que derrière l'ami, il y a l'ennemi qui se profile? Est-ce que nous sommes condamnés à nous opposer à des ennemis? Voilà quelques interrogations qui vont pouvoir être filées ou conduites pendant cette petite intervention. Sachant quand même qu'on s'attache peut-être au seul problème que l'humanité n'a pas pu résoudre, puisque elle en est encore à avoir des ennemis. Nous avons des ennemis, nous les combattons, éventuellement cruellement. Cette affaire-là n'est pas terminée. Or, la raison, surtout au XVIIIe siècle, a voulu poser la question de savoir si on mettrait un jour les États en paix. Pourrait-on installer entre les hommes un état de paix perpétuelle? Au moins trois auteurs du XVIIIe siècle ont traité ce sujet. Il doit y avoir un abbé de Lille, peut-être, je ne me souviens plus, il y a Rousseau et il y a Kant. Kant dont la solution consiste à suggérer que les États se fédèrent. Se fédèrent, s'associent dans des réalités plus grandes que l'État. Qu'est-ce qui peut être plus grand qu'un État? Ça s'appelle un empire. Et la considération de l'histoire universelle suggère que les empires ne se combattent pas et que les empires sont par là même contraints d'être pacifiques. C'est la solution de Kant, mais vous connaissez la façon sinistre dont les efforts faits au XXe siècle ont échoué avec la création de cette pauvre Société des Nations qui reprenait un syntagme de Kant. Société des Nations, c'était dans son texte, et il est bien apparu que quand quelqu'un voulait s'affranchir de la SDN, il n'avait qu'à claquer dans les doigts et il n'avait qu'à claquer aussi une porte. Et il sortait de la SDN et ensuite il faisait ce qu'il voulait. C'est-à-dire des actes de guerre qui entraînaient ou qui n'entraînaient pas, entraînaient en guerre des autres États. Fontana. Quant au machin, c'est-à-dire à l'ONU tel que l'a dénommé le général de Gaulle, il avait ça de machin. Il avait bien raison. Il avait bien raison parce qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est un espace de discussion qui mène à rien, d'écrasement des plus faibles par les plus forts, de propositions raisonnables combattues par un droit de veto qui repose de surcroît sur un principe dont on ne sait pas où il sort, qui est, comme vous savez, le principe de l'intangibilité des frontières. Il faut figer le monde en l'état. Autrement dit, quand ça bouge, quand les peuples se reconnaissent comme tels et veulent se doter d'un état, répond par la négative, non, vous ne bougez pas. Ce qui se passe au Proche-Orient est le résultat direct de ce refus par l'ONU d'envisager des protocoles communs par lesquels les peuples pourraient se reconnaître comme tels et disposer d'eux-mêmes. Donc, un problème pour lequel on meurt, puisqu'il y a encore des ennemis, donc pour qu'il n'y ait pas d'ennemis, eh bien, je vais m'acheminer tout doucement dans ce propos vers les indications qui vont dans ce sens, qui, je pense, vous surprendront. Mais, alors, je procéderai, il y aura 6 sous-paragraphes. Le premier va décrire un certain nombre d'ordres de coexistence, et je vais commencer par convoquer quelqu'un dont on n'est pas tout à fait prêt à le considérer comme un philosophe, puisqu'il s'agit de Jean-Marie Le Pen. Monsieur Le Pen a proféré une de ses phrases, une de ces phrases qui deviennent aussitôt des mots historiques et qu'on se colporte. Un jour où il a dit « Je préfère ma femme à mes filles à mes cousines à mes voisines et mes voisines étrangères, en quelque sorte. Femme, fille, cousine, voisine, étrangère. » Et cette façon de parler est extrêmement intéressante, car elle définit un ordre qui est en quelque sorte l'ordre de la perspective picturale, l'ordre de géométrie euclidienne et de la perspective picturale, avec un point de référence qui est le sujet lui-même, Monsieur Le Pen, dans sa splendeur. Voilà le centre. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne de ce centre, on perd de la grandeur, jusqu'à devenir au point de fuite une grandeur nulle. Le lointain est encore tout petit, mais le très lointain n'est plus rien. Très lointain n'est plus rien, où il est infinitésimal. Et cette façon de parler, cette façon de parler peut être, comme toujours avec les pensées de droite, sous-tendue par l'idée de nature. C'est la nature qui veut ça. Regardez les cigognes, elles s'occupent de leurs enfants, regardez, etc. La nature, donc, veut que parmi les autres, il y en ait qui ne soient à peu près rien, qui soient de dimension misérable, qui ne comptent pas. Ceux-là, ceux qui sont très loin par leur longitude même, n'ont pas à nous intéresser. et qui ne viennent pas, évidemment, à se rapprocher. Monsieur Le Pen a toujours dit qu'il adorait les étrangers quand ils étaient chez eux. Et il a toujours dit que ce qu'il n'aimait pas, c'était que les étrangers viennent chez nous, se rapprochent. Donc, voilà. Au bout de ça, on peut remarquer que c'est tout à son honneur de préférer dans sa parole sa femme à ses filles, mais dans la réalité, on peut voir que l'évolution propre de M. Le Pen a amené à haïr copieusement sa femme, en tout cas la première, et à haïr copieusement ses filles. Ce qui veut dire que le prof n'est pas à l'abri de la bascule dans le rejet, c'est-à-dire dans l'assignation au rien de sa femme qui réclamait, je suppose, une part de gâteau, de quoi vivre commodément, que le père disait sur les ondes officielles qu'elle n'avait qu'à faire des ménages, ce qui est effectivement une réduction des prix et une non-considération de la taille ou de la stature de l'être à un instant le plus proche, un moment le plus proche. C'est ainsi que on voit l'autre quand on s'aligne sur une idée de nature un peu inéduquée. On voit l'autre donc à géométrie variable. Du non pas du tout au rien, mais du très important au rien. Le tout, c'est M. Le Pen himself, à l'origine de la ligne, au début de la ligne de perspective. Je constate de la part de ce monsieur qui exalte les racines chrétiennes de France, que c'est une telle affirmation est à l'opposé exact du christianisme. Car le christianisme nous dit très exactement le contraire. Nous dit. Le christianisme nous parle du prochain. Le prochain, qu'est-ce que c'est le prochain? C'est surtout pas le proche. Le prochain, c'est le rapproché. C'est l'homme sans dimension auquel on accorde une dimension totale par ce qu'on a croisé. Et la dimension du prochain, sa stature, son importance, pour dire un mot simple, ne viennent pas d'un sentiment, mais d'une décision ou d'un état de prédisposition à faire comme ça. Voici, avec un petit hommage à Françoise Dolto qui souffrait l'analyse que je vais vous faire dans l'Évangile au risque de la psychanalyse. Voici l'interprétation tout à fait naturelle de l'épisode du Mont Samaritain. Le Mont Samaritain, c'est un marchand qui se rend pour y faire du commerce. En général, les commerçants ne sont pas dans le sacrifice sublime. Ils auraient plutôt tendance à s'occuper de leurs intérêts. Et dans des périodes un peu difficiles, on les universalisera sous la rubrique du BOF, beurre, fromage, qui profite de la situation pour s'enrichir. Eh bien, le Samaritain, le marchand, croise un malade ou un accidenté, ou les deux, et que fait-il ? Toutes affaires cessantes, il s'arrête. Toutes affaires cessantes, c'est à entendre au sens plein du terme. Toutes affaires cessantes. C'est-à-dire, il s'oublie. C'est-à-dire, il pose le malade comme objet d'une urgence absolue, il le charge dans sa carriole et il va le mettre en sécurité dans la ville voisine. Il lui consacre du temps. Il n'aime pas cet homme de rencontre, mais il le considère comme possédant une stature, une dimension suffisante pour faire abandonner ses propres intérêts, ses propres soucis, ses propres affaires. Ce qui n'est possible qu'à partir du moment où le soi du bon samaritain a perdu ses dimensions fortes pour ne plus faire qu'un avec une sorte de rien. Et c'est cette néantisation de ce brave homme qui ne se tient pas pour quelque chose d'important, c'est cette néantisation qui fait qu'il peut s'intéresser à cet homme de rencontre qu'il oubliera très vite. Il aura simplement respecter, attester quelque chose d'humain et quelque chose de plus qu'humain, puisque l'auto-négation de soi par soi. L'auto-négation de soi par soi n'est rien d'autre que la caractéristique du Christ, dont saint Paul, pour faire comprendre l'essence, déclare il est allé au rien. En grec, ça se dit kénosen, kénos veut dire le vide, et kénosen, il s'est vidé. Et je préfère la traduction, il est allé au néant. Il avait commencé par aller au moins. Dieu s'est incarné, un homme c'est un petit peu moins que Dieu, surtout celui-là. Et ensuite, non content de s'être lié comme Dieu pour être homme, c'est l'incarnation. Cet homme s'est lié pour n'être rien, un agonisant sur un objet de supplice sacré aux esclaves, la croix. Il est évident qu'il avait voulu, lui qui marchait sur les eaux et qui transformait le vin en eau, l'eau en vin, pardon. Il est évident s'il avait voulu, il aurait pu foudroyer tous les conspirateurs, Hérode et autres, et s'en sortir en quelque sorte. Donc, il y a une acceptation de la part du Christ, plus rien. Et je ne connais pas d'autres définitions. Enfin, je ne connais pas d'autres noms pour désigner ce trajet vers le rien que le mot de charité. La charité, c'est pas de donner des glaces à des miséreux comme vient de faire notre bon pape. Pareil, il a donné 8000 glaces sur une place à des Italiens qui avaient bien les glaces pour faire siffler, mais c'est peut-être quand même pas ça. C'est peut-être quand même pas ça la charité. La charité, donc, c'est le contraire. Je vais essayer de faire des gestes pour le comprendre. Le Père est tout en haut, et au fur et à mesure qu'on s'éloigne de lui, on n'est rien. Le Christ est rien, et quand on imite, ou quand on entre dans la charité qu'il est venu enseigner, eh bien, on peut donner aux autres leur place, et faire que le plus lointain soit le plus important. J'ai déjà fait cette conférence récemment et j'ai oublié la fois précédente de faire un petit excursus ici à ce propos, un petit excursus pour citer une leçon de Gilles Deleuze. Alors, une seconde de biographie qui est Gilles Deleuze, c'est un des gourous de 68, un philosophe comme il n'y en a plus, qui a écrit des livres absolument sublimes. D'abord, des livres sur des auteurs, sur Hume, sur Nietzsche, sur Kant. Quand on a lu le Nietzsche de Deleuze, c'est presque plus la peine de lire Nietzsche. Hume, empirisme et subjectivité, il a écrit sur Bergson, il a écrit pour un très très grand prof. Et il a fait des livres plus personnels, différence et répétition, logique du sens, qu'est-ce que la philosophie, le pli, enfin, un auteur extrêmement fait. Et avec une copine à lui, il a enregistrer ce qu'on appelle l'abécédaire de Gilles Deleuze. Si vous aimez la philo, si je ne vous en ai pas dégoûté, eh bien, téléchargez, trouvez-vous, piratez l'abécédaire de Gilles Deleuze. Et, bon, ça fonctionne de la façon suivante. Il est dans un fauteuil, avec ses difficultés d'élocution, parce que c'était un homme qui n'avait qu'un poumon et qui avait du mal à respirer, c'est pour ça qu'il s'est suicidé à la fin, c'est parce que son poumon cessait de fonctionner, donc c'était pas la peine qu'il essaye de continuer. Il est là, et Claire Parnet, son ami, l'interroge sur autant de notions qu'il y a de l'être dans l'alphabet. Alors ça commence avec animal, si mes souvenirs sont exacts, ça se continue jusqu'à je ne sais pas quoi, et j'ai comme gauche, Alors Claire Parnet lui demande de se prononcer sur ce que c'est que l'impôt. Faites-vous plaisir, lisez, entendez, regardez ça, c'est trop drôle, c'est trop drôle. Alors, il commence par s'auto-glorifier d'être le seul de sa génération à ne pas avoir adhéré au Parti communiste français. Donc on a là une petite tirade bien amusante, d'autant plus qu'il soit de ses collègues de l'époque. Il les décrit comme courant, comme des marionnettes de dessin animé pour faire signer un appel qui s'appelait l'appel de Stockholm contre la bombe atomique, contre je ne sais pas quoi. Lui, il disait, non, ben, moi, pendant ce temps-là, je ne pourrais pas pour faire signer l'appel de Stockholm. Bon, je commence par dire ça. Ensuite, il qualifie les intellectuels, ça a dû être filmé dans les années 75-80, il qualifie les intellectuels qui se ridiculisent à se faire les turiféraires, les glorificateurs des droits de l'homme. Et vous avez là trois ou quatre paragraphes d'une violence extraordinaire, beaucoup de choses, explique que ces gens-là sont tout simplement répugnants. Vous lirez. Et alors, après, il définit la gauche. Il définit être de gauche. Il dit, être de gauche, c'est une question de perception. Alors, comment comprendre ça? C'est une question de perception. Et tout simplement, comme je vous l'ai expliqué antérieurement à propos de Le Pen, quand on voit des gens qui sont grands, et puis après des gens qui sont pas grands, et puis après des gens qui sont tout petits, et ces gens qui sont même petits qu'on finit par ne plus les voir, eh bien, être de gauche, c'est les voir. Autrement dit, être de gauche, c'est être chrétien. C'est extraordinaire ce texte, puisque il renverse toutes les associations automatiques que nous pouvons faire en indiquant donc que la gauche sera considération du lointain. Celui ou celle qui a fabriqué nos baskets en Indonésie, celui ou celle que nous ne connaîtrons jamais, qui a cueilli notre café, notre fèves de chocolat, eux qui ne comptent plus, il était à la base d'un processus économique, il y a eu un circuit économique, on a le produit, on n'a pas le producteur, on oublie le producteur, et bien être de gauche, c'est penser à celui-là. Alors, vous me direz, c'est une... ça ne débouche pas sur une démarche, oui c'est vrai, ça ne débouche pas sur un militantisme, mais ça débouche quand même sur la reconnaissance intellectuelle d'une place pour l'autre qui est à peu près en gros la même que celle que nous trouvons dans l'apologue du bon samaritain. Comme c'est drôle et comme c'est surprenant. Voilà. La charité, c'est donc la charité ou la gauche, si dorénavant c'est à peu près la même chose. La charité ou la gauche, c'est pas donner, c'est pas non plus faire entendre la façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne. Hein. Parce que c'est pas ça, c'est pas une façon de donner. C'est une auto-négation préalable. Parce que, évidemment, si j'ai toute ma stature, si j'ai toute mon importance, si, comme dit Hobbes, l'homme est un dieu pour l'homme, il veut dire l'individu singulier est un dieu pour l'individu singulier. pour voir les autres n'auront jamais de consistance. Donc, pour que les autres, pour que l'autre existe comme autre, il faut cette opération peut-être impossible, hein, d'auto-négation de soi ou de négation partielle de soi. J'ai tort de dire qu'elle est impossible puisque Dieu s'est fait homme pour enseigner la possibilité, en un exemple peut-être unique, mais qui reste un paradigme, d'auto-négation de soi. Vous remarquerez au passage que cette construction de la possibilité d'un autrui possédant une stature, une dimension par l'auto-négation de soi n'a pas grand-chose à voir avec le proverbe qui horripilait Lacan, le proverbe qui dit « aimer autrui comme soi-même », qui est un proverbe d'allure chrétienne, peut-être relayé par le christianisme. Mais dans l'explication que je vous ai donnée, qui passe par le ekénosène, il se vida. Il ne s'agit pas d'aligner autrui sur un amour de soi total, puisqu'au contraire, il s'agit d'un renoncement à soi. Et puis, de toute façon, qu'est-ce que ça vient faire, ce verbe aimer? Il ne s'agit pas d'aimer l'amour. C'est l'infini à portée des caniches, disait Céline. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'autre chose. Parce que si l'on se figure qu'autrui prendra ses dimensions quand on l'aime, non, mais pas au bout, c'est surprenant. D'abord parce que ça peut cesser du jour au lendemain. Si un autre passe dans le champ et qu'on se met à l'aimer, bon. Et puis, aimer, c'est une attitude de l'affectivité, et personne n'a dit que. Qu'il était possible d'être autrui, pensez-moi. Ce qui est drôle, non, c'est pas drôle, je veux dire ce mot. Ce qui est abominable, sinistre et abject. Mais drôle du mot noir, bon, allons-y. C'est que le docteur Mengele à Birkenau avait construit une machine pour mesurer l'amour. Et bon, s'il était venu à cet exposé, il n'y aurait pas songé, mais c'était dans l'air du temps de mesurer l'amour, puisque vous savez que les années 1900 jusqu'à presque aujourd'hui sont des années où on tente d'appliquer ce qu'on appelle le paradigme galiléen, hein, aux sciences humaines, c'est-à-dire qu'on mesure, on mesure des trucs, on dit l'homme, ça consiste en ceci et en cela, puis on va le mesurer. Alors on mesure ce que vous voudrez, et quand on est contaminé par cette métromanie, cette mesuromanie, évidemment, on va tenter de mesurer l'amour. C'était une idée d'André Breton, de faire, de mesurer l'amour. Mais le docteur Mengele, c'était pas une idée. C'était une réalisation. Alors comment l'avait-il fait pour mesurer l'amour? Il avait construit une espèce de chaise électrique. Vous savez, Mengele, c'était celui qui triait les gens sur la rampe par les canards. Bon, les premiers à la mort d'un côté et les autres de l'autre côté, on voit des photos où il est là et il trie les gens avec un geste du pouce, comme ça, comme des enfants romains. Et quand il pouvait trouver des jumeaux, il prenait des jumeaux et il allait étudier les jumeaux. Et ce qu'on n'est pas beaucoup, c'est qu'il était en correspondance avec le Vatican pour faire part des études sur les jumeaux, parce qu'on voulait savoir au Vatican si les jumeaux avaient une âme unique pour deux ou en fait deux âmes différentes. Je vous ai peut-être parlé de ça dans une autre séance, si je le répète, ne m'en veuillez pas. Alors, il avait construit une espèce de chaise électrique à deux où on pouvait installer des gens qui s'aimaient. Alors mari-femme, père-fils, père-fille, ami-ami, couple homosexuel, etc. Et chacun disposait d'une manette pour basculer l'électricité sur l'autre. Vous voyez bien, vous le voyez trop bien. C'est un dispositif de cauchemar, et alors on prenait les amants, des mariés, des vieux mariés, enfin tous les cas de figure, et ensuite on les installait là, puis avec un potentiomètre, on augmentait le courant. Et on regardait ce qui se passait. Alors, bien entendu, chacun voulait être sublime et prendre l'électrification pour soi dans un premier temps. Et puis, il y avait un moment où quelque chose cédait et on basculait le courant sur l'autre, et à la fin, on avait ce spectacle infect d'un couple aimant se basculant, disons, le courant sur l'un l'autre. Voilà. Il n'a pas tenté, Mengele, de voir comment les choses se passaient entre un SS et sa femme. Il était bien entendu d'emblée que ça pouvait être qu'à des êtres dégénérés qu'on appliquait ce traitement pour faire des mesures. Alors, il en a fait des mesures, je pense qu'il en a conclu, mais il a fait des mesures. Et voilà, donc, ça prouve que on ne peut pas aimer autrui comme soi-même. C'est un mot d'ordre impossible à réaliser, parce qu'on s'aimera toujours plus que l'autre. Il y a toujours un moment où on cédera et où on se préservera. On se préservera alors qu'on administrera un supplice à l'autre. C'est pour cela. Enfin, l'enquête sur l'autre et le statut de l'autre ne se fait pas au moyen d'une réflexion sur l'amour de l'autre. D'où le dédain de Lacan pour cette formule. Ça se trouve dans son séminaire « L'éthique de la psychanalyse », je crois, c'est l'un pour cette formule, « Aimer autrui comme soi ». On aurait pu dire, quand même, à Lacan, n'allez pas si vite, parce que si effectivement cette formule est impossible à tenir, il n'est pas exclu que les hommes, dans leur beauté rare, ne doivent prendre pour mot d'ordre des préceptes impossibles à tenir. Ça n'est pas exclu. Mais la solution vient d'ailleurs, et elle vient, comme j'ai déjà pu le faire entendre, je crois, du philosophe Emmanuel Kant, car Kant, dans ses œuvres morales, c'est-à-dire les fondements de la métaphysique des mœurs, la critique de la raison pratique et la doctrine de la vertu, Kant montre bien que la vie morale ne s'effectue pas à partir de la subjectivité, non, de l'affectivité, de l'affectivité. La vie morale se construit à partir de principes et non pas à partir d'élan contingent, d'élan excessif, d'élan que Hegel, dans les principes de la philosophie du droit, nommera bouillie du cœur, en se rappelant que la bouillie est ce qui est tiède, ni chaud, ni froid, et qui doit être au fond. C'est une citation des Évangiles. Donc, il ne s'agit pas en morale, et donc dans la rencontre avec autrui, il ne s'agit pas d'enfourcher, si je puis dire, sa propre affectivité et d'en constater les bons effets dans la bienveillance, le care, la magnanimité, la tendresse. Ces choses-là existent, parce que nous ne réussirons bien entendu jamais à nous dépouiller de notre affectivité, mais la morale n'est pas de cet ordre, elle est de l'ordre de la raison. Et que peut-elle faire à la raison? Elle peut inspirer à l'homme un sentiment rationnel qui n'a rien d'affectif, et qui est le sentiment du respect. Le respect, dont la formule est celle du bon samaritain, donner à l'autre une stature pleine, entière, considérable et scellée devant, évidemment. Il n'y a rien de bon en ce monde que la bonne volonté et la bonne volonté qui débouche sur le respect, nous dit Kant. Voilà. Kant a écrit aussi un livre qui s'appelle « La religion dans les limites de la simple raison » et ce que je vous dis sur son élaboration des concepts recteurs de la vie morale va dans ce sens. C'est la raison qui dicte l'idée d'importance d'autrui. Voilà. C'est pas le cœur. Et le cœur, il faut pas trop compter sur lui parce que parce que c'est pas un principe, c'est une motion momentanée. Qu'est-ce qui se passe si un beau jour, lassé des restaurants du cœur, les uns et les autres arrêtent ce plat? Ils ont collecté à une certaine époque des sommes considérables, et qu'est-ce qui se passe si ça s'arrête? Qui va nourrir les gens qui connaissaient? Je pose cette question parce que c'est comme ça que Hegel la pose. Le cœur, il est contingent. C'est pas une nécessité interne, tandis que le respect, c'est une nécessité interne. Voilà. La postmodernité, encourage à mettre au-dessus de tout sa propre jouissance. On n'est même plus dans le désir, on est dans la jouissance. Et donc, jouir d'autrui, mais aussi ignorer autrui comme il se voit quand un SDF malade est en train de mourir sur un trottoir. Que faisons-nous? Nous l'enjambons. C'est une attitude nouvelle, typique de la postmodernité. À toutes les autres époques, on s'arrête et on dit: monsieur, qu'est-ce qui se passe? Madame, qu'est-ce qui se passe? Mais la jouissance est passée par là. Et donc, la postmodernité, avec son primat accordé à cela, la jouissance, puisque je l'avais défini comme ça, prépare au discours de Le Pen. On ne s'étonnera pas que ça prenne. J'aime mieux ma femme que mes filles que mes cousines, etc. On ne s'étonnera pas. La postmodernité n'a pas que des défauts, nous le verrons tout à l'heure, mais pour le moment, il faut reconnaître qu'elle ne nous prédispose pas vraiment à construire une attitude volontaire et ancienne. Après cette réflexion sur les espaces, appuyée donc par le Samaritain, le Père, etc., je voudrais développer une autre thèse concernant, c'est donc un deuxième moment de mon exposé, je voudrais étudier une autre thèse portant sur la notion de rencontre avec autrui. Car c'est bien ainsi qu'un certain nombre de philosophes raisonnent: que se passe-t-il quand je rencontre autrui? Comment ça va se passer? Eh bien, nous disposons d'une analyse Penkeps qui se trouve chez Hegel dans la phénoménologie de l'esprit, où Hegel nous décrit la rencontre des consciences. La rencontre des consciences. Des consciences de soi. Je suis une conscience de moi, de soi. Et je rencontre une autre. Comment Hegel lit-il cette rencontre? Réponse: comme un conflit. C'est-à-dire comme le fait que autrui, s'il est conscience de soi, invalide le fait que je sois moi-même conscience de soi, ou en tout cas la seule entité fonctionnant sur le mode de la conscience de soi. Il s'ensuit, et c'est le chapitre le plus connu de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, il s'ensuit que les consciences de soi vont se battre, vont chercher à s'éliminer l'une l'autre. Traduction, la rencontre avec autrui, donc est conflictuelle, elle est polémique et elle est négatrice. Je ne veux pas que tu sois. Moi seul suis. Voilà. Moi je suis tout simplement parce que la conscience de soi n'a pas fait l'expérience de l'intégrité des autres consciences de soi. Donc quand on rencontre une conscience de soi, on est prêt à la traiter comme une chose. Et il va falloir que l'autre fasse la preuve de son humanité et donc de sa conscience de soi aussi. Alors comment vont se passer les luttes entre deux consciences de soi, une des cas de figure? Celui que retient Hegel est celui, le cas où l'un accepte de se battre et l'autre ne l'accepte pas, parce que l'un reconnaît au-dessus de soi le danger de mort et l'autre n'en a rien à faire du danger de mort en question. C'est-à-dire que les deux consciences de soi vont être renommées, transfigurées dans les deux figures que seront le maître et l'esclave. Le maître est maître de la mort s'il n'a pas peur de la mort, sinon c'est la mort qui est maître de tout. Et l'esclave est l'esclave de la mort, il veut vivre, et donc il préfère devenir esclave et vivre plutôt que de combattre au risque de sa vie. Parce que nous, les choses vont continuer à évoluer. Et le maître va faire la cruelle expérience de ce que l'esclave devient compétent. Il travaille, il sait des choses, il entreprend la culture, tandis que lui est un parasite. Ça peut se chanter. Je ne peux pas le faire. D'autant plus qu'il y a un là. Dans l'air qui peut se chanter, c'est l'air de Figaro, le barbier de Séville. Vous connaissez l'histoire. Il y a le comte Almaviva qui est un parfait crétin et qui est amoureux d'une mignonne qui s'appelle Rosine. Et il ne pourrait pas de faire autre chose que jouer de la mandoline sous les fenêtres de la Rosine. La Rosine, elle est très sensible à la mandoline. Elle connaît ce qu'on veut, je ne sais pas, un petit mouchoir, un truc comme ça. Elle prend les deux en fait, ça va. Ça y est, c'est embrayé. Et comment voir Rosine? Comment? Eh bien, à ce moment-là, ça arrive Figaro, qui chante l'argot à le fractotum de la chita, place pour celui qui fait tout dans la ville. C'est beau, hein? La fractotum de la chita, là, c'est beau. Non. Et puis après, fortunatissimo père de ça, bravo. À qui est belle vie, jamais été, belle très chère, Fernand Barrière, Hippolyta, et après il explique les gens l'appellent. Hey Figaro, on voit, Figaro, soldat, Figaro sou, Figaro tout, Figaro sou, Figaro tout, etc. Celui qui fait tout dans la cité. Alors l'imbécile lui propose de l'or. Lui propose de l'or, Figaro accepte, il aime bien, et il va trouver un certain nombre de ruses pour faire entrer le comte Almaviva, le jeune comte Almaviva, dans la demeure du baron Bartol. Voilà. La pièce a pour sous-titre La précaution inutile, et je ne sais que cet enfer du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle n'a pas arrêté de réfléchir sur le rapport maître-serviteur. Vous avez ça chez Marivaux, vous avez ça chez les uns et les autres. Voilà. C'est délicieux. Vous avez ça chez Pierre Coquelet, alors là, en même temps, ça devient la servante maîtresse. Vous avez ça, c'est le XIXe siècle, dans la pièce qui s'appelle Don Pasquale. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que l'esclave va se venger en acquérant un savoir-faire. Et avant de dire, quand il réfléchira lui aussi sur le rapport maître-esclave, que ça va évoluer encore, c'est-à-dire que le maître va devenir maître sur le mode de la captation du savoir de l'esclave. Il va lui prendre, il va lui prendre son savoir et va faire fonctionner son savoir. Mais j'en viens donc au squelette de ce paragraphe. La rencontre avec autrui, donc, quand on s'est intéressé à ça, a été pensée comme polémique. C'est lui ou moi. C'est. Ouais. Avant. On disait pas ça, pourquoi on disait pas ça au XVIIIe siècle? Parce qu'on avait installé dans le cœur des hommes une vertu qui s'appelle la bienveillance. La bienveillance. Ou la générosité. La générosité, c'est un peu autre chose. Rousseau dit, par nature, nous sommes bienveillants. C'est-à-dire que par nature, nous sommes ouverts à l'autre et nous donnons une place à l'autre. Autrement dit, Rousseau présente le problème comme toujours déjà d'emblée résolu. Enfin, on se rend compte que c'est pas aussi simple. Et donc, Hegel, la Révolution française est passée par là. Et la Révolution française est bien destructrice. Les autres se sont haïs sous la Révolution française. Donc, ils trouvent le cadevas de la rencontre avec autrui, sous cette forme de la rencontre polémique. Plus près de nous, Sartre dira exactement la même chose. Elle parle bien de ça, Madame Dascure, dans sa conférence. Sartre, pour Sartre, voilà, autrui intervient toujours de façon négative dans mon champ existentiel. Il, ouvrez les guillemets, c'est du Sartre, il me vole mon monde. Il inflige ma démarche, il parasite mes projets, voilà, il est trop, il ne ferait pas être là. Il écrira une pièce de théâtre qui s'appelle Huit Clos pour développer cette idée, où s'ouvre la célèbre phrase d'en faire c'est les autres. Et évidemment pas le dernier état de la pensée de Sartre concernant les autres, mais vous avez cette idée qu'à la base, la rencontre avec autrui est conflictuelle. Il y a du reste un bel exemple dans l'être de néant. C'est l'exemple suivant, vous êtes en train de lire le journal, et autrui arrive à dire vous, et lit le journal aussi. Eh bien, chacun sait que c'est totalement insupportable. Et donc, on a envie de tuer ce salaud qui lit le journal par-dessus notre épaule.
Je te le passerai tout à l'heure. Pour le moment, tu me laisses lire.
Voilà. Voilà, bon, ça, c'est peut-être un peu la subjectivité de Sartre, mais mon propos n'est pas tout à fait celui-là. Mon propos Et je vais suggérer qu'on pensera mieux les choses si l'on décrète, ou si l'on soutient la thèse que, eh bien, il n'y a pas de rencontre avec autrui. Ça n'existe pas. C'est un rêve d'égotiste, normalien ou prussien. Pourquoi il n'y a pas de rencontre avec autrui? Parce que autrui, il est toujours déjà là. Il est toujours déjà là, d'emblée, depuis toujours. Nous n'avions pas le cerveau, nous étions en train de grandir dans une matrice, qui était la matrice d'un autrui particulier, qui était notre maman. Ensuite, oui. Vous j'y viens, hein? Vous l'aurez avant la fin de la leçon. Autrui est toujours déjà là. Et si on versait les autres, on versait les autres sur le mode que je vais vous décrire maintenant. Ce serait pas que j'aurais mon petit pavillon avec mon terrain et ma bagnole et qu'autrui pourrait me le prendre. C'est que quand je vais, je suis parlé par les autres. D'abord, je suis nourri par les autres, je suis dans la dépendance et donc autrui se charge de moi, se charge de ma détresse. Mais aussi, et surtout, je vais faire sauf exception l'expérience du langage, je vais entrer dans le langage, c'est-à-dire que je vais être à partir de ce qui est dit de moi. Je vais être, le monde ici sait très bien que les bébés, avant de s'appeler eux-mêmes par leur prénom, s'appellent bébé et par le deux à la troisième personne, c'est-à-dire qu'ils reprennent ce que l'entourage produit comme discours. Pierre Arfin, et le Pierre en question, va dire Pierre Arfin. Il va pas dire j'ai faim. Et la bascule du bébé à faim ou bébé à froid à j'ai froid, j'ai faim, va mettre plusieurs années avant de se constituer. Autrement dit, et ça c'est très important. Donc, je vais retirer ce que je dis, je vais dire que c'est très important parce que quand on dit que les choses sont importantes, on ressemble à Auguste Comte qui mettait un adjectif, un adverbe du genre fondamentalement dans toutes ses phrases, et c'est agaçant. Donc, je retire, c'est important. Mais vous avez quoi? Ça c'est plus important. Le problème de celui que nous avons été, c'est de se dégager d'autrui. Et c'est de se dégager d'autrui, d'un autrui qui est diversement invasif. Autrui me prend, me tourne, me lave, me dit ceux qui vont pour moi, dit quand je dois dormir, dit bon, avec les meilleures intentions du monde, mais amour ou pas amour, amour ou pas amour, autrui est invasif. Parfois ça fait des criminels. Le grand criminel de sang est en général quelqu'un dont les parents ont poussé le caractère invasif trop loin. Et quand c'est pas ça, vous connaissez les difficultés, je vous ai raconté, je crois, des choses qui allaient dans ce sens, les difficultés à se dégager de ce que les parents veulent pour vous. Ils veulent que vous soyez pharmacien s'ils sont pharmaciens, ils veulent que vous soyez hétérosexuel, ils veulent que vous soyez. Bon. qui fait que, bon, là, si on veut rendre service au genre humain, il faudrait, à l'occasion de cet exposé, ici ponctuer les choses en disant qu'il y a un sacré mot d'ordre pédagogique qui est foutu la paix aux enfants. Laissez-les faire. Donnez-leur des trucs à agencer, non pas des légos ou techniques, mais des marrons, des allumettes, des bouchons, vous allez voir. Ils vont se trouver. Ils vont se trouver et ils vont bien évoluer. Surtout pas vouloir pour l'enfant. Ça rend fou de vouloir pour eux, à la place de l'enfant. Il y en a qui s'en sortent jamais. Il y en a qui sont jusqu'à à leur dernier souffle dans des rites et dans des obédiences qui étaient ce qu'il fallait pour le faire à papa. Donc, ça, si vous retenez un truc de cette séance de cet après-midi, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. À savoir que l'enfance commence par une telle prééminence d'autrui, un tel écrasement par autrui, que le dégagement va être difficile et que très probablement toute l'agressivité humaine vient de là. Vient de là, de ce que nous avons été envahis. Et que nous avons eu éventuellement beaucoup de mal à nous libérer de ça. J'allume la mémoire de mon papa, qui me disait, moi j'avais comme théorie d'éducation de ne te donner aucune éducation. Merci. Merci. Voilà, donc autrui est là, et nous avons du mal, non pas lors de la rencontre, mais lors du dégagement de sa présence et de son être. Est-ce que, à partir de là, nous arriverons quand même à lui accorder un statut un peu philosophiquement et humainement satisfaisant à cet autrui? C'est ce qu'interroge la problématique de l'alter ego, l'autre moi. Est-ce que il nous est possible, après cet enfer qu'est l'enfance, cet enfer d'étouffement qu'est l'enfance, d'autant plus intrigué qu'on est étouffé par de l'amour, hein, bon. Après cet enfer, est-ce qu'on va pouvoir forger une image d'autrui telle qu'on le met à sa place? C'est un moi comme moi. C'est un moi que je ne dois pas considérer comme une chose, que je dois considérer comme un alter. Savoir que l'autre est un moi comme moi, le traiter comme un autre comme moi, alors c'est pas tout à fait le respect ancien, ça, mais c'est, disons, un ordre de coexistence joli. Est-ce possible? Eh bien, par... Alors là, je voudrais citer deux sources de réflexion, l'une à laquelle pense bien évidemment Madame Dascure dans sa conférence, et une autre à laquelle elle ne pense pas. Commençons par celle à laquelle elle ne pense pas. C'est l'école de Francfort, et notamment le philosophe qui s'appelle Adorno. Adorno, juif allemand, émigré aux États-Unis, surdoué, ayant écrit des livres avec son copain Horkheimer, qui sont totalement magnifiques. Si vous voulez vous faire plaisir, alors là, tiens, trouvez-vous, empruntez le livre d'Adorno qui s'appelle Minima Moralia. Considération minimale sur la mort. Vous allez voir, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et Adorno nous dit, la philosophie n'a à faire qu'à une seule chose.
Comment ça s'écrit Adorno?
Adorno, A-D-O-R-S-O, excusez-moi. Je vous dis une fois. A-D-O-R-N-O, Minima Moralia. Mais bon, il a écrit d'autres choses dont la fabuleuse dialectique de la raison. C'est quand même très facile à lire. La dialectique de la raison, la dialectique négative, est-ce qu'il y a d'autres qui sont bien ceux-là. Et ils étaient un peu marxistes, un peu freudiens, et surtout ils étaient intelligents. Adorno est un peu agaçant parce qu'il a passé 4 ans de guerre mondiale à se mettre dans un exil intérieur où il s'occupait de musique. Ça paraît un peu disproportionné avec l'état du monde, mais bon. Non, c'est vraiment des références. Alors, il dit qu'il y a une chose importante en philosophie, c'est vraiment l'importance, hein, c'est la souffrance. C'est la souffrance. C'est la reconnaissance de la souffrance. Nous souffrons, autrui souffre, nous n'oublions jamais nos souffrances, autrui ne dit jamais ses souffrances. Alors nous nous croisons comme des, comme des croisés en armure, avec nos cottes de mailles, nos baumes. Se protéger, nous ne nous ouvrons jamais à la dimension de la souffrance, nous ne la confessons pas, nous-mêmes. Or, c'est ça que nous sommes faits. Et donc, je serai au plus proche du vrai. Si je préadmets que autrui est comme moi un être pour qui la vie est difficile et qui n'est pas plus fort par rapport à la tâche de vivre. Promis à la mort, évidemment. Ça fait quand même un peu souffrir. Au petit matin, quand la mort apparaît dans la dimension de la certitude, c'est pas. Ça fait quelques mauvaises minutes, n'est-ce pas? On est tous comme ça. Et on est tous dans le semblant. Dans la semblance, dans le semblant, dans le masque de nos rôles. Nos rôles de femme au foyer, de petit chef, de mère, d'agent de police. C'est la métamorphose de l'agent de police est très amusante à constater. Il est impitoyable quand il vous met une amende, et puis quand sa femme se bat, elle y va pleurer devant l'assistante sociale. C'est ma fille qui est assistante sociale qui me raconte des histoires de ce genre. Il y a les dames en cause, mais il y a aussi à paraître de l'être vrai. On pourrait lui demander, à l'agent de police, de rester de temps en temps un peu l'être vrai aussi, évidemment, là vous êtes d'accord. Être de de souffrance. Et c'est là que prend le relais une autre analyse qui concerne autrui, et que cite Madame Dastur, juste titre, comment contourner ça, c'est pas possible. C'est une analyse de Lévinas, Emmanuel Lévinas. Philosophe juif lituanien émigré en France qui a beaucoup œuvré entre théologie et psychologie, etc. Et alors il y a une analyse que tout le monde connaît, répète, cite. Je ne peux pas faire autrement que faire comme les autres dans une leçon autrui. C'est l'analyse du visage. C'est autrui qui, non pardon, c'est Lévinas qui nous enseigne à considérer que le visage, le nôtre et celui de l'autre, mais celui de l'autre, surtout le visage, est au sein du monde un objet particulier, puisque ça ne pourra jamais être un objet. Et ce sera au contraire une surface d'inscription de l'affectivité. Vous voyez bien comment ça se passe. Vous êtes en voiture, il y a une voiture qui vous gêne devant. Alors, vous insultez, vous traitez de tous les noms, vous essayez de souhaiter le pire sort qui soit, puis vous le doublez. Et vous apercevez là quelqu'un de profil. Vous apercevez quelqu'un avec son visage. Et tout s'effondre. Vous voyez bien que c'est une personne avec. Ça peut exagérer sa nervosité, sa langueur, son pathos. Et là, son affectivité sur ce qui n'est pas une partie du corps. Le visage n'est pas une partie du corps. Le visage est une partie du feu sémiologique. C'est une source de signes que nous captons et que nous captons autrement sur le modèle de l'objectivation. Un visage, ça ne peut pas être comme une assiette ou comme un pied. Je n'ai rien contre les pieds, mais enfin, vous voyez ce que je veux. Un dos, une jambe, non, un visage, tout de suite. Alors merci à M. Lévinas d'avoir dit ça, parce que il nous fait entendre là un propos qui est quand même un petit peu optimiste, parce que grâce au visage, eh bien oui, l'autre s'installe dans la posture ontologique de l'altérité. Pas de reconnaissance laborieuse, pas de lutte, pas de. Voilà. Ça se fait assez bien. Les enfants jouent qui décomposent leur visage en disant une contrariété. Et alors les parents observent là quelque chose qui n'est pas loin d'être la chose la plus triste du monde. Ils ne peuvent pas rester. Ne pas rester sans rien faire, c'est mignon. Comme quoi les enfants sont grands Lévinasiens sans le savoir. Je vais maintenant m'interroger sur la question de savoir comment l'autre devient étrange. Oh là là. L'autre devient étranger. Alors, Abyss, mettez vos ceintures, je vais un peu la caliser. L'autre devient étranger quand il relève d'une autre culture et que son monde est en tout décalé par rapport au nôtre. Une autre culture sera sans doute une autre culture si il vit dans d'autres conditions que nous. mais d'abord des conditions de géographie physique. C'est la raison pour laquelle vous voyez arriver mon cher, cher Montesquieu, celui qui nous a appris que l'autre était autre parce que il vivait dans d'autres conditions que nous.
S'il vit dans les mêmes conditions que nous, il va être très semblable.
Mais si dans le chaud, dans le froid, dans une économie fondée sur le poisson, dans les neiges, bien sûr, c'est vachement autre, un Inuit.
S'il dépend d'une île,
là, il va être sacrément autre par rapport à nous.
Pourquoi je parle du Nil ?
Parce que le Nil est un fleuve qui a des crues, qui a des décrues. Quand il a des décrues, il laisse sur le sol des éléments de fertilité par rapport auxquels il faut accomplir des gestes paysans absolument à date fixe. Donc, le Nil.
Pardon ?
Ah bon, oui, bien sûr. Bien sûr. Le Nil impose le despote, et le Nil impose le spécialiste du calendrier qui va venir aider le despote à prendre les décisions. Et le Nil impose par conséquent que le Fella, pas de lapsus, obéisse aux directives du pharaon. Donc le Nil prédispose à subir le despotisme, un despotisme calendaire, un despotisme de calendrier. Voilà. Autrement dit, quand on tombe sur quelqu'un qui est préparé au despotisme, mais il ne faut pas dire, faut pas l'insulter, il faut dire que les conditions sont différentes. Tout simplement.
Si nous avions été dans les mêmes conditions, nous aurions été
comme lui, comme eux. Eux, les étrangers.
Mais c'est vrai que les étrangers sont des étrangers parce qu'ils ont des habitus.
Ils ont des habitus, des gestes, des concepts, des mœurs, des façons de vivre. Ils ont des mœurs, c'est le mot contextuel. Hein. Des mœurs entièrement différentes des autres. Vous avez ça dans les lettres personnes et plus encore dans l'esprit des lois que je tiens pour la construction philosophique théorique exemplaire de ce qui conduit à la tolérance. Après Montesquieu, vous ne pouvez plus être intolérant. C'est dire qu'on devrait donner Montesquieu cacher une grande piqûre à nos chères têtes blondes dès qu'on pourrait, parce que c'est acculturant, Montesquieu, c'est une formidable leçon d'être avec et de considération de l'autre. Mais ça ne dit pas que l'étranger soit étranger. Il sera étranger sur un mode doux, explicable, puisqu'on connaît, en lisant l'esprit des lois, les mécanismes constituants de l'extranéité de l'étranger. Ce pourquoi il est étranger. Il n'est pas essentiellement étranger, il est étranger au niveau des accidents. Substantiellement, c'est un homme comme nous. Accidentellement, ben c'est un homme du chaud, du froid, des hauts plateaux, de la plaine, des choses comme ça. On a besoin de Montesquieu parce que nous sommes, mais là, ça c'est désagréable, c'est vrai, c'est vraiment désagréable. Nous voulons aligner les autres sur eux. Nous voulons qu'ils soient autres. Donc, vestimentairement, alimentairement, par distraction, etc. on veut universaliser une action de Montesquieu qui est imparable, qui est définitive, qui met un point final, c'est que un monde où la différence fourmille vaut mieux qu'un monde uniforme. Dites-le, levez le doigt, si vous voulez que partout, y compris dans la jungle ou chez les Esquimaux, il y ait un McDonald's. Dites-le. Il faut que la différence fourmille. Différence sans les réactions. Que c'est bien de tomber sur un étranger qui va nous faire connaître, parce qu'il est étranger, ce que nous avons de caractéristiques, cependant, nous découvrirons ses caractères. Quand un étranger vient chez nous, il lui faut un certain temps pour cesser d'être étranger. Et pendant ce temps, se déchaînent les cultures de l'hétérophobie, de la peur ou de la haine de l'étranger. Remarquez qu'il n'y a pas de mot en français pour dire la haine de l'étranger, quelque chose comme xénophobie, c'est phobie, c'est peur, c'est pas haine. La racine qui dit la haine, c'est misanthrope, misogyne. Il n'y a pas de misoxénis, je savais que ça pour les besoins de la science, ça n'existe pas. Alors que c'est le réel de notre rapport à l'étranger. C'est quand même un peu fort qu'il n'y ait pas de mots pour dire ce qui est partout. Ou qu'on commence à dire des mots qui ne sont pas les bons, c'est notre vie. Oui, on dit islamophobie, oui, mais ils ont droit à la peur. Mais on ne dit pas bis-islamie, on pourrait dire, puisque le fond du problème, c'est bien qu'ils sont haïs, ces gens-là. Non, ils ne sont pas forcément haïs parce qu'ils ont peur, parce qu'ils font peur, ils sont haïs parce que ce qui n'est pas nous, ce qui n'est pas familier, est rejeté. L'ouverture à l'étranger s'appelle hospitalité. Et je quelque chose qui je parfaite, qui n'est pas très fréquent. Quand vous allez au loin, vous tombez sur des gens hospitaliers, ou quand les gens du loin viennent chez vous, ils ne vous trouvent pas très hospitaliers en France. Donc, je pense que nous avons besoin de diffuser la leçon de Montesquieu. Il faut diffuser la leçon de Montesquieu. D'une certaine façon, ça se fait. Vous voyez toutes sortes de principes d'émissions de télévision. On va démontrer des gens qui ne sont pas comme nous. Soit on nous montre notre face cachée, c'est le loft, soit on nous montre des rencontres culturelles sur le modèle de Montesquieu, du Huron, de Voltaire. Il y a quand même un travail qui se fait. On ne peut pas dire que tout le monde sait la xénophobie. Mais il n'y a pas quand même assez d'éducation à la xénophobie, c'est-à-dire au sens de la richesse de la différence. Alors, c'est là que je vais un petit peu l'analyser. Lacan a vais essayer de dire juste ce qu'il faut pour que vous puissiez adopter le premier concept de Lacan. Lacan, analysant ce que c'est qu'une phrase, a proposé ce qu'il note de façon symbolique, a opposé le signifiant numéro 1 et le signifiant numéro 2. Si je dis bien aller dans le jardin, il y a un signifiant qui commence la phrase, qui est le sujet, au sujet duquel on va donner l'information. Il a appelé ça le S1. Et ensuite, tout ce qu'on va dire sur Pierre, ça va être le savoir qu'on a sur Pierre, que Lacan appelle le S2. Ce S1 a un autre nom, on l'appelle le signifiant maître, puisqu'il commande la phrase, mais aussi il commande l'autre. Alors, reportez-vous maintenant au cours sur l'identification, sur l'identité qui a précédé celui-ci. Nous ne réussissons à vivre que parce que nous mettons notre identité sous un S1, sous un signifiant maître. Et non sous un savoir. Excusez-moi. Et non sous un savoir. Alors c'est très évident parce que le savoir de l'étranger, le S2 de l'étranger, peut m'intéresser. Savoir comment on fait le manioc, comment on cuit le manioc, c'est intéressant. Ou bien que parler à quelqu'un du Cameroun qui va me dire comment on fait le manioc. Il faut faire attention parce que c'est un peu long, le manioc, il faut bien cuire, etc. Le S2, qui fait que l'étranger est étranger d'un autre savoir que moi? Le S2 ne conduit pas à la xénophobie. Par contre, ce qui conduit à la xénophobie, c'est le S1. C'est-à-dire, le S1, alors disons à partir de maintenant, le signifiant maître. Autrui soit paramétré autrement que nous. Mais c'est ce que nous pouvons être prêts à admettre, puisque dans notre ère culturelle, il y a déjà des petits paramétrages différents, par la différence des métiers, par la différence des âges, par la différence, par ces petites différences-là. Donc, on n'est pas complètement touché à la reconnaissance de l'acceptabilité du S2 de l'étranger. En revanche, si l'étranger est porteur d'un signifiant maître qui est incompatible avec le mien, alors là, vous allez voir s'opérer la bascule de l'étranger en ennemi. Donc, l'ennemi sera celui qui possède une autre règle d'identification que la mienne, un autre dessin que moi. Et son S2, bon, c'est plutôt pittoresque. Regardez les Allemands. Bon, je déconne, hein. Les Allemands, c'est comment un Allemand? Ça boit des shorts de bière de 2 litres, ça a des shorts en culotte de peau, ça construit des bailleurs qui valent plus cher que votre maison, ça conduit pardon, des bailleurs qui grimpent, ça parle de cette épouvantable langue culturelle agressive que l'on connaît, je plaisante, hein. Ça se nourrit de saucisses. Il y a même à Berlin un magasin avec 2000 espèces de saucisses différentes. Ça ne manque pas. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, je ne vais pas dire sexuellement comme moi l'allemand, parce que ça va arriver à la gaudriole. Mais on pourrait s'amuser comme ça. Mais tout ça, c'est très sympathique. L'italien. Il y a un sketch de Fonréval sur ce sujet. Fon vient de mourir. Patrick Fon vient de mourir. Personne n'a salué la disparition de Fon. Moi, je trouve que c'est un poète qui devrait être dans le bagarre des Michards. Sauf que le garçon avait une puissance politique, alors s'il a fait avec les adolescents, je m'en fous. Mais c'est un poète. C'est un bon parolier. C'est un bon petit compositeur. C'est un homme généreux. Écoutez la chanson de chant de fond qui s'appelle Le Chalet. Écoutez la. Bon. Pourquoi je parle de fond? Oui, parce qu'il y a ce sketch où il décrit les autres, l'italien est voleur, l'espagnol est fier, etc. Mais c'est pas antipathique que les autres soient les autres sur le mode du SE. Donc, des paramètres de vie différents et un savoir différent d'une autre concernant ces paramètres. Les marins de Cook qui sont arrivés sur des îles du Pacifique et qui ont fréquenté une jolie balnée sont tombés sur des mœurs sexuelles qui, croyez-moi, ils sont attachés à ces îles. Donc le S2 n'est pas toujours désagréable. Mais alors le conflit des conflits de S1, voilà. Si tu me définis par un signifiant maître, je suis français, moi, monsieur, je suis chrétien de la Magloire. Je suis, voilà, ça commence par je suis, puis il y a un truc là qui tombe, et qui va définir toute notre vie. Et puis, ce truc, il y a des gens qui l'ont pas. Et quand on a un autre truc, par exemple, ils sont musulmans. C'est pas le même Dieu que nous, c'est pas le même rapport au texte, c'est pas le même. Là, ça va faire rien. Il se trouve dans l'histoire de la philosophie récente, quelqu'un pour avoir théorisé ce truc que je vois avant là. Il s'appelle Carl Schmitt. C'est un juriste allemand qui a écrit de tas de choses que tu es franchement nazi, beaucoup plus que Heidegger. Et il a soutenu cette ère du temps que l'opposition entre ami et ennemi était un absolu. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être sans avoir des ennemis. Pas des ennemis, le copain qu'on n'aime pas, mais des états qui sont nécessairement sur le mode de l'hostilité. Limicus polemos en grec. Il a écrit ça dans un livre qui s'appelle Nomos der Erde. Alors c'est drôle comme titre. Nomos, c'est un mot grec qui signifie répartition, la justice, et der Erde, c'est le mot allemand de la terre. Comment se répartit la terre? Eh bien, la terre se répartit en particularités ennemies. Ennemies qui seront ennemies, c'est-à-dire en guerre. Il y a deux façons de faire la guerre, une façon qui consiste à la faire et une façon qui consiste à ne pas la faire. On ne la fait pas quand on a trop à perdre à la faire. Donc souvent, les coexistences, non pas pacifiques du tout, mais non belligérantes avec l'ennemi, mais qu'il y a un petit problème d'Alsace-Lorraine ou un truc comme ça, hop, ça y est, c'est la flambée, ça va venir. Je vous fais une confidence, je suis obsédé en ce moment par la notion que voici, la notion de crime sans remords. Qu'est-ce qui peut amener à commettre des crimes sans remords? Alors, je ne parle pas du tout du crime sans remords. Criminel sanguinaire qui a assassiné toute sa famille, parce que les remords viendront. Surtout si on met des psychologues dans les prisons, les remords viendront. Mais je parle de. C'est pas du membre des Einsatzgruppen. Alors voilà, quelqu'un qui était à Bac plus 6 en Allemagne, on lui dit un jour t'es enrôlé comme réserviste, on va te mettre dans un Einsatzgruppe, et puis ton job, ça va être de faire sauter des têtes toute la journée avec ton fusil, on a des photos, on a tout ce qu'il faut, on a des souvenirs, on a bon, des gens charmants dans leur famille, qui sont photographiés avec leurs enfants dans les bras, et qui le soir avait mal à la tête à cause de la vodka qu'on leur avait donnée, et qui était couvert de cervelle et de morceaux d'os des gens qu'ils avaient assassinés toute la journée. Eh bien, c'est le propre de ces gens-là, c'est d'être sans remords. Alors d'abord parce qu'on leur avait donné non, et puis ensuite parce qu'on leur avait. On leur avait pas fait un cours lacanien, on leur avait pas dit les autres ne sont pas notre S1. Mais c'est ça. Le S1, il sait rien, c'est la race. Bon, alors quand les gens sont d'une autre race, crime sans remords. Voilà. Quand les gens bourraient ça, le catholicisme qui est des protestants, crime sans remords, les dragonnades de Louis XIII, on arrivait dans les fermes, on prenait les enfants par les pieds, on leur faisait sauter la tête sur les murs de la cheminée. Voilà, ça s'appelle une dragonnade. C'est chez nous, il n'y a pas besoin de regarder en Allemagne, c'est ce qu'ont fait nos parents, nos grands-parents, Louis XIII c'est nos grands-grands-grands-parents, mais bon, voilà. Et ainsi de suite, vous voyez bien que c'est une notion. Que c'est une notion philosophique et criminologique de premier plan, le crime sans remords. C'est comme ça que fonctionne la planète. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a l'Irak avec des gens pas bien, allez hop, ici, dégâts collatéraux, crime sans remords. Personne pleure. Les journalistes disent, de toute façon, ils ne nous informent pas là-dessus. C'est incroyable cette notion de crime sans remords. Se mettre à tuer, puis s'en trouver bien, et en être justifié par quelque chose. Alors qu'est-ce qui justifie qu'est-ce qui justifie le crime sans remords? C'est que l'autre, avec son S1 différent du mien, est dans une négation totale de la personne. Et je suis dans une négation totale de sa personne. Donc, c'est pas mal ça. Il y a trois façons. Là, c'est un peu prétentieux. Parce que je vais écrire mon projet de paix perpétuelle à mon tour. sans peur du ridicule, à la manière des rousseauistes, à la manière du XVIIIe siècle. Il y a trois façons de restituer à l'ennemi son simple statut d'étranger. La première façon, c'est de s'installer dans un discours qui tourne le dos à la certitude. Qui tourne le dos à la certitude. À la certitude que j'ai mon être dans un signifiant être. C'est-à-dire premier mètre, donc ce qu'on a appelé la docte ignorance. La docte ignorance, concept d'un cardinal du XVIIe siècle qui s'appelait Nicolas de Cuse, mis en œuvre dans un livre difficile, c'est un des rares livres qui nous soit tombé dans vous. Mais le titre est excellent, la docte ignorance. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne sait pas, mais dans la mesure où on sait quand même des choses, on sait qu'elles ne sont pas définitives, on sait qu'elles ne sont pas absolues. Ça fait du bien, la docte ignorance. Je vous assure que, vous prenez par exemple, prenez un traité d'anthropologie d'il y a 50 ans, prenez un traité d'astronomie d'il y a 50 ans. Sans beaucoup balancer sur le système solaire, sur les autres mondes habités, sur des trucs comme ça, mais on vous disait des bêtises avec une certitude insupportable. De même, les autres préhistoriques, alors on nous les représentait de façon absolue caricaturale. Bon, il faut doucement. Doucement, si on écrit un traité d'astronomie, on commence par dire on sait très peu de choses. Un traité de nutrition, on sait très peu de choses. Alors, vous savez comment ça s'écrit, les traités de nutrition, avec une arrogance puante, une certitude inébranlable. Que alors 10 ans après, on change totalement des modes, les modes. En pédagogie, c'est pareil. Donc, docte ignorance. C'est pas le scepticisme, la docte ignorance. Le scepticisme s'en rapproche, car après tout, c'est pas si mal, et ça a bons effets. Quand vous vous mettez dans des godasses sceptiques, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt à dire c'est moi qui l'ai capté, c'est moi. Voilà. Tandis que, quand vous avez votre S1, même si c'est un très bon S1, même si c'est un S1 très sympa, je trouve qu'en Russie bolchevique, ils avaient un S1 qui était pas mal, la révolution russe, je trouve que c'était pas mal. Et ensuite, joue le phénomène du S1. C'est-à-dire, tous les moyens sont bons pour préserver ce S1. On élimine tous les coulages pour préserver ce sein, on ceci, cela. Et vous voyez bien que ce n'est pas une question de totalitarisme, vous voyez bien que c'est une question de définition par un signifiant maître inébranlable, à laquelle on donne une adhésion tout à fait excessive, somnambulique, et pour laquelle on n'a pas les institutions qui vont vous permettre de prendre du champ par rapport à ces certitudes. Donc, docte ignorance. Bernard Journeau, lors de la transition, on disait je ne vous dis pas la vérité, je ne vous apporte pas la vérité. Moi non plus, hein. C'est pareil.
pareil, on sait très bien qu'on fait des efforts, nous sommes en route, vous avez dit ça au début de l'année, nous sommes des homo-obligateurs, nous sommes en route vers le droit, mais qu'on s'affronte une bonne fois pour toutes qu'être en route, ça ne veut pas dire être arrivé au bout du chemin. Voilà. C'est pourtant pas difficile.
Deuxième moyen,
On en a retrouvé plusieurs fois cette année, ce deuxième moyen, c'est l'humour. C'est l'humour, parce que l'humour nous distancie de ce à quoi nous tenons le plus.
L'humour, c'est autre chose, pour le moment je crois ça, mais je ne vais pas. L'humour, je suis catholique, mais il aurait pu l'être autrement. L'humour, je suis français, mais. Il y a tellement de hasard que si ça se trouve, j'arrive d'Abyssinie ou de
Guinée-Équatoriale
là, avec quelques blanchiments dans les générations précédentes. L'humour
détache de ce à quoi on tient au moment où on y tient. Tandis que la certitude accroche à ce à quoi on tient de façon définitive. La certitude, c'est le signe de la paranoïa. La docte ignorance, c'est le signe de la santé mentale. Et l'humour, c'est aussi le signe de la santé mentale. Et vous pouvez, si vous ne croyez pas, lire les propos de table de l'hiver récemment traduits par M. Delplat, vous ne trouverez à aucun moment le plus petit début de commencement d'humour. De l'ironie, oui, à toutes les bases de l'ironie pour ceux qu'on écrase et dont on va parler ironiquement, mais de l'humour, jamais. Et puis, il y a un troisième moyen d'éviter le S1, d'éviter la définition par le S1. Cette idée m'est venue à l'occasion d'une conférence que m'avait demandé un ami psy. Vous avez parlé de Kant et de Kant qui s'appelle La critique du jugement. Et dans ce livre, La critique du jugement, Kant parle du jugement de goût. Quand est-ce qu'on dit c'est beau ? Je laisse, c'est pas le sujet. Mais il parle aussi du jugement où on va dire non, pas c'est beau, mais c'est sublime. Et il y a une grande différence entre le « c'est beau » et le « c'est sublime ». Alors, je ne vais pas tenter de résumer la critique du jugement en 3 minutes, mais le sublime, c'est ce qui advient quand on est dans, disons, un décor à l'échelle duquel on est tout petit. Voilà. Vous avez remarqué que à Grenoble, il n'y a pas de cathédrale. Oui. Il y a une, comment on l'appelle, collégiale. Hein? Ah oui, mais bon. Petite cathédrale, il n'y a pas de cathédrale gothique, alors je. Pas comme à Reims ou comme Notre-Dame de Paris, un truc comme ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de cathédrale à Grenoble ? Non, c'est pas ça, c'est qu'on a des montagnes. Et quand il y a des montagnes, il n'y a pas besoin de cathédrale. Et quand il n'y a pas de montagne, il y a besoin de cathédrale. Parce que la cathédrale, comme la montagne, vont déclencher le sentiment du sublime, c'est-à-dire le sentiment de sa petitesse. Quand on est installé dans le sentiment de sa petitesse, on n'a même pas, on ne vient pas dire je sais, on ne vient pas dire je veux que tu sois comme moi, on ne vient pas dire des choses comme ça. Autrement dit, c'est très curatif, le sublime. L'eau est sublime, la mer est sublime à sa façon aussi. Et un paysage sublime nous donne immédiatement, ce sentiment de notre, on disait en grec, bénémia, de notre rien. Vous voyez, en fond,
le désert aussi.
Oui, parfaitement. Voilà. Donc, ignorance, humour, sublime. Toutes ces avec ces trois-là, ces trois béquilles existentielles, vous êtes préservé de la définition forcée par un S1 qui vous laissera dans l'état lucide, c'est-à-dire un cadavre tenu par une armature en fer et qui part à l'attaque de Sarrasin qui ne voit même pas.
C'est pas beau?
C'est l'image que vous avez à la fin du film, le site d'Anthony Mann avec Charlton Heston et Sophia Loren, magnifique. Et là, à la fin, il meurt. Alors tout le monde est affolé, qu'est-ce qu'on va faire? S'il n'est pas à la tête des troupes, c'est tout. Les soldats ont besoin que le chef soit à la tête des troupes. Alors, on fabrique, ce que je vous ai dit, la nature en fait, il tient un drapeau, mais il part, puis après, le cheval va se perdre dans une montagne, il sera là, il tombera du cheval, si mes souvenirs sont exacts. Très belle image, le site d'Anthony Mann. Voilà, je pense. Qu'on peut s'arrêter. J'essayerai de vous faire une séance donc sur la politique la prochaine fois. Merci de votre invitation. Bien sûr.